bienvenue à ce nouveau petit cours d'histoire mondiale. Dans cet épisode, un cours thématique consacré cette fois à la Grande Révolte arabe de 1916. La Syrie, le Liban, l'Iran, Israël, la Palestine, ces pays actuels nous donnent l'impression depuis plusieurs décennies que le Moyen-Orient est une terre de sang. Difficile de comprendre les tensions actuelles dans ces pays et entre plusieurs pays de cette région, tellement les enjeux politiques, économiques et religieux semblent complexes. Et les derniers mois nous le démontrent encore une fois. Pourtant, ces difficultés ont au minimum, on va dire, deux points communs. Les actions précipitées et plus ou moins réfléchies de la Grande-Bretagne et de la France pendant et après la Première Guerre mondiale, mais aussi les promesses non tenues envers les populations arabes qui ont accepté de se révolter contre les Ottomans à partir du 10 juin 1916. Grands perdants de la fin de cette guerre, leurs descendants luttent encore aujourd'hui pour tenter de réparer plusieurs injustices commises à leur égard il y a plus d'un siècle. Alors cet épisode thématique vient par ailleurs compléter celui précédent consacré plus spécifiquement à la Syrie. Essayons de comprendre maintenant les origines de cette révolte et ses conséquences, tout en nous intéressant au rôle qu'ont joué deux archéologues dans cette histoire, soit Gertrude Bell et un certain Laurence d'Arabie. Lorsqu'on pense au monde arabe, essayons de le comprendre en fait en quelques moments clés avant la Première Guerre mondiale. On parle essentiellement de la péninsule arabique, dans l'Antiquité on va parler aussi du Proche-Orient, et depuis en fait la fin de la Première Guerre mondiale, on va davantage parler du Moyen-Orient. Cette grande région est un carrefour de civilisations et de populations depuis l'Antiquité, donc on en a vu en fait depuis nos premiers cours en parlant de la Mésopotamie, alors pensons aux Sumériens, aux Babyloniens, et nous allons bientôt voir les Assyriens. Mais on va aussi parler de l'Empire perse, qui est le premier empire universel, de l'installation en fait du peuple hébreu, de l'intégration d'une bonne partie de cette région à l'Empire romain par la suite. Et il faut parler des invasions de populations nomades, semi-nomades, qui vont en venir en fait habiter toute cette grande région, qu'on peut appeler aussi le couloir syro-palestinien en grande partie. Et c'est là qu'on va voir en fait les premières populations arabes et musulmanes qui vont s'y installer. Et ça va donner naissance en fait au premier califat et sultanat, à penser à celui du Caire, de Bagdad, et éventuellement en fait à l'installation des Turcs du côté de l'Anatolie, ce qui va donner naissance en fait à l'Empire ottoman. Et lui va nous intéresser en fait dans ce cours thématique, parce que bon, avec la prise de Constantinople en 1453, c'est la consolidation du pouvoir de cet empire ottoman. Et c'est un empire qui a étiré ses frontières jusqu'au sud de la péninsule arabique, en plus d'intégrer la Palestine et la Syrie. Et ça va faire en sorte que les empires britanniques, français, mais aussi l'empire allemand, vont en venir à être intéressés par les possibilités commerciales de la région, notamment avec la création et construction du nouveau canal de Suez. Mais aussi, et certainement, par le potentiel des puits de pétrole à une époque où le moteur à combustion est inventé, et là, on commence à réaliser l'importance de cette ressource naturelle. Alors, les secteurs habités qui sont visés, je vous dirais, par les pouvoirs britanniques et français, entre autres, ils sont habités, en fait, par des populations nomades et semi-nomades, notamment, en fait, les Bédouins, ce qui veut dire, en fait, ceux qui traversent le désert. Et eux considèrent que les Ottomans leur ont volé leurs terres. Et ça va être un moteur, en fait, des révoltes arabes qui vont survenir, en fait, pendant la Première Guerre mondiale. Mais il faut quand même comprendre que sur cet immense territoire, il y a beaucoup de tribus, il y a beaucoup de clans, et il n'y a pas nécessairement d'unité entre elles. Elles ont toutes des histoires un peu différentes, des origines ethniques, mais des origines culturelles aussi assez différentes également. Alors ça, c'est assez complexe, mais on a besoin de cette unité-là si on veut affaiblir l'Empire ottoman dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Parce qu'il faut comprendre quand même qu'à partir de la fin du 19e siècle, l'Empire ottoman existe depuis près de 400 ans, mais il commence quand même à voir ses territoires et son économie à être menacés, on va dire, de toutes parts. Par les puissances russes d'un côté, les révoltes paysannes sur des territoires clés quand même de son empire, comme la Serbie ou l'Herzégovine. Et il faut dire aussi que, l'Égypte va commencer à créer des problèmes à partir de 1832 avec le vice-roi Mehmet Ali, qui va aller faire la conquête de la Syrie avec son fils. Par la force, négociation aussi avec le sultan de la région, mais ça déjà, ça va provoquer des soulèvements et des révoltes des populations. Et les plus grandes puissances européennes vont s'inquiéter de la situation en Égypte parce que, parlons du fameux canal de Suez, il y a quand même des enjeux commerciaux en fait qui sont assez importants dans cette région-là. Et c'est ce qui fait en sorte que Mehmet Ali va céder en fait Il va abandonner ses prétentions sur la Syrie en 1840 et c'est la date à laquelle la Turquie va exercer une reprise en main quand même assez ferme en fait de cette région-là. Et ben là, les empires britanniques, français, mais comme je vous disais aussi allemands, toujours intéressés par les possibilités commerciales avec le nouveau canal de Suez, ben là, veulent la région et comme je vous disais, commencent à s'intéresser aussi à la perspective de pouvoir y extraire du pétrole. Alors, pour l'Empire ottoman, en 1878, eh bien, on a la cessation des Balkans, de la Serbie, de la Roumanie à l'Empire russe. Donc, déjà, on commence à voir une fragmentation, en fait, de l'Empire ottoman. Et là, ils vont avoir, je dirais, une gestion plus autocratique qui va faire en sorte que des jeunes intellectuels vont se révolter, vont essayer de prendre le pouvoir pour essayer de sauver ce qui reste de l'Empire ottoman. C'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, le mouvement des jeunes turcs qui va émerger en 1908. Et ils vont quand même réussir à contrôler Istanbul, ce qui est quand même pas rien. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller lire là-dessus parce que c'est quand même un morceau assez intéressant quand même de l'histoire de la Turquie plus particulièrement. Et on va voir aussi l'émergence d'un mouvement nationaliste ottoman-musulman et une peur de la perte de tous ces territoires. Et là, ça fait en sorte qu'on va en venir à gérer, administrer en fait plus sévèrement les territoires qu'on va considérer comme étant à risque et ou ceux qui sont nécessaires pour le transport ferroviaire. Parce que le 19e siècle aussi, alors que tout ça se produit, début du 20e aussi, c'est quand même l'époque de la révolution industrielle et c'est le début des grands réseaux de chemin de fer. On a la création du chemin de fer Berlin-Bagdad qui a provoqué déjà des tensions sur la péninsule arabique parce que vous avez des tribus, des clans arabes qui avaient eu une certaine liberté de gestion jusqu'à ce moment-là, mais là, la construction du chemin de fer et on va dire sa gestion fait en sorte qu'on est un petit peu plus, encore une fois, sévère, enfin, dans l'administration des régions. Et là, ben, il y a une montée d'un sentiment anti-turc à beaucoup d'endroits où va passer ce chemin de fer-là ou pas loin. Donc, l'Albanie, la Bulgarie, la Grèce vont entrer en révolte aussi. Alors, on voit que l'Empire ottoman est vraiment en train de perdre beaucoup de territoire, il se fragmente et il essaie du mieux qu'il peut de sauver les meubles, si vous me permettez cette expression québécoise. Et le 5 novembre 1914, eh bien là, l'Empire ottoman, lui, choisit d'entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne parce qu'on cherche une protection contre la Russie et de notre côté, ben, les Britanniques et les Français, eux, veulent une partie des territoires pour toujours le pétrole et surtout les liaisons de transport commercial vers le canal de Suez. Mais d'une certaine façon, qu'est-ce qu'on cherche, c'est l'anéantissement de l'Empire ottoman, c'est qu'il se fragmente complètement pour qu'on puisse en fait mettre la main sur divers territoires, faire passer les chemins de fer, s'assurer en fait que le commerce soit beaucoup plus facile entre l'Orient et l'Occident, il y a un peu ça aussi. Et on doit prendre en considération le fait que vous avez la bataille sanglante de Gallipoli ou ce qu'on appelle aussi la bataille des Dardanelles en 1915-1916 qui est une des rares victoires ottomanes et une catastrophe pour les Britanniques et les Français, qui vont chercher un moyen de démanteler l'Empire au-delà des combats militaires traditionnels. Ils vont se baser en Égypte et vont réaliser que le sentiment anti-ottoman chez plusieurs populations arabes est très fort, en fait, et qu'il existe même des associations secrètes qui veulent essayer de démanteler, elles aussi, la puissance et une forme d'autoritarisme de la part de l'Empire ottoman. C'est dans ce contexte-là, en fait, que les Britanniques vont fonder ce qu'on appelle le Bureau arabe, qui est leur division des services secrets britanniques au Caire, avec pour objectif d'acquérir le plus d'informations possibles sur les clans, les tribus, sur le territoire, en fait, de la péninsule arabique et ce qu'on appelle aujourd'hui, en fait, essentiellement le Moyen-Orient, comprendre le territoire, comprendre, en fait, ses ressources, voir ce qui pourrait être utilisé contre les Ottomans. Et c'est dans ce contexte-là que vont être engagés des archéologues sous couverture, donc des archéologues espions, que sont Gertrude Bell et Lawrence d'Arabie, ou de son vrai nom, en fait, Theodore Lawrence, et qui vont voir, en fait, eux, d'après leur expérience du territoire, le shérif Ben Ali Hussein, le prince de la Mecque, comme étant peut-être le chef qui pourrait les aider à déstabiliser les Ottomans. Et pourquoi ils ont ces connaissances-là et pourquoi ils vont être capables, en fait, de voir des personnages forts pour les aider à démanteler l'Empire ottoman, c'est que tous les deux ont une expérience quand même assez intéressante, en fait, sur la péninsule arabique. Alors, parlons dans un premier temps de Gertrude Bell, qui est la première femme à avoir un diplôme en histoire en Angleterre avec les honneurs, à une époque où, bon... On ne voulait pas vraiment voir les femmes à l'université. D'ailleurs, elle a fait ses études en histoire en faisant face au mur d'eau aux enseignants, aux professeurs qui étaient insultés en fait que des femmes soient assises dans leur salle de classe. Et c'est une femme un peu unique qui avait vraiment besoin de bouger, de faire des voyages. Et c'est comme ça qu'elle va, après ses études, visiter Constantinople, Jérusalem. Et il va tomber en amour avec le désert et il va y passer plusieurs années. C'est comme ça qu'elle va en fait rencontrer plein de populations locales, apprendre l'arabe, qui est une langue qui la fascine. Et en même temps, ben, des fois, elle retourne chez elle ou va ailleurs en Europe et escalade des montagnes, entre autres dans les Alpes, ce qui est encore une fois très rare pour une femme à l'époque. Sachez qu'elle a même un sommet à son nom dans les Alpes suisses, le sommet de Gertrude dans les Engelhorn. Et elle va, parallèlement à ça, ben, visiter le Liban, la Palestine. Elle va continuer à suivre des formations en archéologie, en géographie, avec des professionnels français, allemands, britanniques. Et ben, voilà, début 20e siècle, ben, on est en train, en fait, du point de vue des sciences, de l'archéologie, de l'histoire, de comprendre et d'établir l'idée que les premières grandes civilisations ben, sont nées, en fait, au Proche-Orient. On est vraiment en train d'essayer de comprendre ce qu'était l'ancienne Mésopotamie. Alors, elle va beaucoup s'intéresser, en fait, à ces premières grandes civilisations-là, essayer de mieux les comprendre, de trouver des artefacts, en fait, qui racontent cette histoire-là. Mais, contrairement à ce qu'on pourra reprocher plus tard à certains archéologues du British Museum ou autres, Gertrude Bell n'avait pas cette intention de sortir des objets, en fait, du pays. Elle tombe profondément amoureuse, en fait, d'à peu près toutes les régions du Proche-Orient et considère que c'est important pour les populations arabes aussi de comprendre qui a habité ce territoire-là avant eux. Et donc, les artefacts qui sont découverts devraient rester sur le territoire. Gertrude Bell est celle qui a fondé, en fait, le musée de Bagdad, ce qui est quand même pas rien. Mais son but à l'époque, avant la fondation du musée, c'est aussi de faire connaître les Arabes, le désert, leur histoire, mais leur mode de vie aussi en Occident. Et elle veut faire un grand livre avec ses propres photos. Elle avait déjà d'ailleurs publié des traductions de poèmes perses et elle commence à publier des articles sur ses voyages, entre autres dans le Times. Et dans la trentaine, ben là voilà, elle veut parcourir les parties méconnues du désert arabique. Elle note tout ce qu'elle voit et elle commence déjà à recevoir des mandats de diplomates britanniques qui veulent en fait obtenir les résultats de ces observations géographiques et on pourrait dire ici ethnographiques, les relations entre les tribus, est-ce qu'il existe des conflits, est-ce qu'il existe des alliances, quelles sont les routes stratégiques qu'ils empruntent dans le désert, où sont les sources d'eau dans le désert, ce qui peut devenir vraiment très important si vous voulez vous battre. Et ces publications ben, vont attirer aussi les politiciens, les historiens, les archéologues et le grand public. Donc Gertrude Bell, quand même, était, quand on était au tournant du 20e siècle, quand même un nom de plus en plus connu dans le domaine. Surtout que le désert arabique est encore très inconnu et exotique. Et elle a dans son écriture un style qui est très poétique, mais ses photos sont très précises et ses explications aussi. Elle a un style scientifique. Elle va publier d'ailleurs son premier livre de photographie, on va dire d'histoire, qui est The Desert and the Zone, qui est paru en fait en 1907. Et là, ben, un peu malheur à elle, d'une certaine façon, c'est le déclenchement de la Première Guerre mondiale qui limite ses possibilités. Elle voulait un poste en histoire archéologique au Moyen-Orient, c'était refusé, donc là, elle va travailler pour la Croix-Rouge en France, mais quand on installe le bureau arabe du côté du Caire, elle devient une candidate intéressante comme espion, parce qu'elle a la connaissance de la langue arabe, elle connaît les tribus, la géographie du désert, les sources d'eau, et tout ça, ben, ce sont des connaissances inestimables aux yeux des Britanniques, parce qu'ils ont besoin de la collaboration des tribus pour réussir à démanteler l'Empire ottoman. Et c'est un petit peu l'objectif, d'ailleurs, de la fondation de ce bureau arabe. Donc, Gertrude Bell devient, en 1915, une espionne, une agente du gouvernement britannique. Elle est la première femme officier. Elle devient Major Miss Bell. On l'envoie en mission archéologique, mais c'est une couverture à ce moment-là, parce que l'objectif, c'est vraiment de s'assurer qu'elle puisse discuter avec les tribus, qu'elle produise des cartes qui sont très précises, qu'elle accumule de l'information sur les forces ottomanes qui sont présentes aussi sur le territoire. C'est une femme archéologue, donc elle a l'air, en fait, inoffensive à l'époque. Et c'est comme ça qu'elle commence à comprendre quelles sont les familles les plus puissantes qui devraient peut-être, en fait, gérer le territoire si on fait fuir les Ottomans, quelle serait la meilleure personne à mettre sur un trône tout neuf, en fait, de ce qui va devenir l'Irak. Et c'est comme ça qu'elle va voir venir l'émergence de forces rivales si les Ottomans quittent le territoire. Vous avez les Hachimites sunnites qui sont en fait gérés, entre autres, par le prince Faisal. Vous avez les Wahhabis de Ibn Saoud, vous êtes en Arabie Saoudite. Et elle donne toute cette information-là, en fait, au bureau arabe. Et comme c'est une femme, ben, elle peut parler avec les femmes. Et les femmes ne la voient pas non plus comme une menace. Donc, elle apprend plein de choses, en fait, que les hommes ne lui diraient probablement pas. Et il faut dire qu'il y a un code du désert parmi, entre autres, les Bédouins qui interdit de s'en prendre aux femmes. Alors, même si elle, des fois, ces questions énervent, personne ne va l'attaquer. Elle ne se sent pas menacée du tout, en fait. Et elle est aimée par la plupart des cheikhs arabes qui, parce qu'elle connaît leur culture, s'y intéressent, posent des questions intéressantes. On voit qu'elle est cultivée, qu'elle est intelligente. Elle a sa tante avec sa porcelaine anglaise fine et les hommes vont aller prendre le thé avec elle. Et c'est comme ça qu'on va commencer à l'appeler Al-Khatoun, la noble dame. Et c'est comme ça qu'elle va devenir une conseillère du prince Faisal et qu'elle va commencer à le voir comme celui qui pourrait fédérer, en fait, le plus grand nombre de tribus si on devait créer de nouveaux pays après le démantèlement, pays royaume ici, après le démantèlement de l'Empire ottoman. Et elle va être la guide et conseillère aussi d'un autre homme important dans ces révoltes arabes qui, généralement, nous intéresse bien parce qu'il est encore plus connu, Theodore Lawrence, qui est mieux connu sous le nom de Lawrence d'Arabie, qui est lui aussi un diplômé en histoire d'un collège d'Oxford. Lui a fait des travaux sur l'influence des croisades sur l'architecture européenne, très intéressé par ce qu'on va en venir à appeler le Moyen-Orient. Et il va donc lui aussi aller visiter différentes régions, mais là, à titre d'archéologue. Donc, lui aussi va apprendre l'arabe. Il va faire des fouilles en Syrie, va faire des fouilles aussi du côté de ce qu'on appelle encore la Mésopotamie, mais qui va devenir essentiellement l'Irak. Et au déclenchement de la Première Guerre mondiale, ben, il est rapidement enrôlé par l'armée britannique pour aider à déterminer encore une fois. Bon là, dans son cas, au départ, c'est la géographie, mais du désert de Negev. Donc, on est plus du côté de ce qui est aujourd'hui là, le territoire israélien. Et encore une fois, identifier les points d'eau et comprendre en fait, bon, ben, si on se bat contre les Ottomans, où vont-ils passer avec leurs troupes et où est-ce qu'on pourrait en fait les détourner ou les attaquer pour que ça vaille la peine? Et s'ils veulent attaquer l'Égypte, ben, comment on pourrait les déstabiliser en fait du côté de l'Égypte aussi? Donc, lui aussi devient en fait un espion, un archéologue qui en fait est un espion pour le bureau arabe. Et non seulement, bon, il parle la langue, il connaît la région, mais il va démontrer à quelques reprises, lui, sa résistance physique dans le désert. Et ses collègues vont dire que il est peu intéressé, en fait, par où est-ce qu'il dort, où est-ce qu'il mange. Donc, les conditions dans lesquelles il se trouve, ce n'est pas quelqu'un qui fait la fine bouche. Il est capable de dormir, en fait, simplement dans le désert s'il ne fait pas trop froid et il n'a pas nécessairement besoin là, d'avoir une grosse tente avec, justement, un service en porcelaine pour avoir le thé. Et on réalise, en fait, qu'il a un grand respect pour les Arabes et leur culture. Il est fasciné par eux. Et c'est dans ce contexte que, bon, ils ont le même couvert, en fait, des espions qui sont sous couverture d'archéologues. Et bien, c'est comme ça qu'ils rencontrent Gertrude Bell et qu'elle va l'aider à plusieurs reprises dans son travail pendant la guerre. Et c'est sûr que Theodore Lawrence est recruté là, dans le service secret de l'armée britannique au Caire lorsque la guerre éclate officiellement. Et là, lui, il va devenir un agent de liaison officiel pour aider le fameux prince Faisal, donc lui qui fait partie là, des clans des Hachimites, dans ce qui va devenir la révolte arabe et confirmer en fait qu'il a le soutien en fait des Britanniques contre les Ottomans. Et c'est ce qui nous amène au contexte de ces révoltes. En 1916, donc Gertrude Bell et Theodore Lawrence voient en fait le père du prince Faisal, Sherif Ben Ali Hussein, comme étant quelqu'un qui peut vraiment les aider à déstabiliser les Ottomans. Et les Britanniques, ce qu'ils veulent, eux, c'est créer un État arabe indépendant. Alors, c'est un peu l'objectif. On veut en fait que les territoires qu'on connaît aujourd'hui comme étant la Syrie, la Palestine, Jérusalem, retrouvent leur indépendance face à l'Empire ottoman. Ce sont des territoires qui sont convoités, entre autres, par la France et on va leur vendre un argument là, d'une vengeance qui plane depuis les croisades. Les nationalistes arabes qui en ont vraiment assez, en fait, de l'Empire ottoman et de comment ils sont traités, surtout, prennent la décision de soutenir les Anglais et les Français. Et c'est ce qui déclenche la révolte arabe qui est destinée à libérer les provinces arabes de l'Empire ottoman. Donc, Faisal, qui est le fils, en fait, de shérif Ben Ali Hussein, va être à la tête des troupes avec Laurence d'Arabie et ils vont commencer à se battre à partir du 9-10 juin 1916. Ils sont en fait c'est plus de 5000 bédouins à chameau et à cheval. Si vous avez vu le film Laurence d'Arabie, vous avez des images très vives dans votre tête. Mais vous pouvez regarder aussi les images d'archives qui sont tout aussi fascinantes, en fait, parce que c'est sûr que ça détonne entre les troupes britanniques de l'époque de la Première Guerre mondiale et ces bédouins qui combattent avec des sabres et des armes à feu aussi, mais quand même à d'autres chameaux, à d'autres chevals, ce qui est l'idéal, en fait, dans le désert. Et lentement, mais sûrement, ils surprennent les Ottomans qui ne s'attendent pas à ce que ça vienne d'eux, en fait. Et c'est comme ça qu'ils vont prendre Aqaba, la Mecque, Taïf. Et en 1917, c'est l'année pendant laquelle ils vont vraiment commencer à démanteler, en fait, la puissance ottomane, parce qu'ils vont les attaquer en détruisant, entre autres, le chemin de fer. Ils vont utiliser, en fait, des explosifs sur les rails pour les tordre avec ce qu'on appelle des bombes cerises. Les trains vont dérailler et là, les Arabes vont piller les armes, métal et tout ça. Et après ça, ils visent Damas. Là, c'est le cœur du monde arabe, selon eux, depuis le Moyen-Âge. Et Faisal et les troupes vont atteindre Damas à la fin de 1918. Et bon, ce sont des succès, hein, mais des succès... Même le bureau arabe n'en revient pas. Il y a des stratégies qui sont encore étudiées de nos jours, surtout quand on veut combattre dans le désert, parce que la connaissance du désert par ces populations-là a été, en fait, ce qui a fait tourner la situation de leur côté. Ça a été la grande force, en fait, dans les révoltes arabes. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va libérer, entre guillemets, ce qui va devenir éventuellement l'Irak, même une partie de l'Afghanistan, la Syrie. Ce sont des gens qui sont habitués à circuler à dos de chameaux, de chevaux, qui permettent des attaques parfois plus rapides, en fait, que des roues en plein milieu du désert. Et, c'est plus adapté au climat, au milieu. Et... c'est ce qui fait en sorte qu'on va réussir ces avancées-là jusqu'en 1918. Et donc, dès 1917, en fait, Laurence d'Arabie, Faisal, certains clans arabes voient que, le vent va peut-être tourner en leur faveur et commencent à faire des demandes, en fait, aux Britanniques. Mais ce qu'on ne sait pas et qui va fâcher, en fait, Theodore Lawrence, c'est qu'il y a déjà une entente qui est réalisée à partir de 1917 là, dans un document qui va exclure, en fait, les Arabes de la division des territoires. On veut voir Faisal sous la recommandation de Gertrude Bell et Laurence d'Arabie comme étant le roi d'un royaume qu'on appellera l'Irak, mais ce qu'on va appeler éventuellement le Moyen-Orient, comment on va diviser les territoires, les frontières, ça va se faire, en fait, entre les Français et les Britanniques. C'est ce qu'on appelle l'entente Sykes-Picot, Sir Mark Sykes, qui est un riche britannique du Yorkshire, et vous avez un diplomate français là, qui est François-Georges Picot. Ce sont eux, en fait, là, qui vont en venir à délimiter des frontières très arbitraires. En fait, on parle d'une ligne diagonale dans le sable, de la côte méditerranéenne jusqu'aux montagnes perses, avec pour objectif derrière un peu de ramener les Juifs sur la terre promise. Il y a une vision un peu religieuse derrière tout ça. Et là, c'est sûr que ça explique une partie des frictions à venir en Palestine, mais aussi des différentes frictions qui vont émerger entre les différents clans arabes qui, eux, on ne respecte pas, en fait, leur histoire, on ne respecte pas certaines animosités ou des tensions, on fait juste diviser les territoires, puis de manière assez arbitraire, vous vous trouvez d'un côté ou de l'autre. Vous avez quand même 90% d'Arabes dans la région, ne serait-ce que de ce qui est couloir syro-palestinien, c'est énorme. Et c'est comme ça que vous allez avoir une conférence de paix qui va s'ouvrir officiellement le 18 janvier 1919 à Paris, et c'est vraiment là que les Français et les Britanniques vont en venir à se disputer le partage des territoires délimités, le partage des territoires arabes que l'Empire ottoman a perdu. Et encore une fois, ils ne prendront pas en considération les revendications de la délégation qui est menée par Faisal, parce qu'il est là. Il veut faire entendre la voix des gens qu'il représente, mais on ne tient pas compte de ça. Et le 12 mars 1921, vous avez ce qu'on appelle la conférence du Caire. Et ça, c'est une rencontre qui est pensée pour officialiser les politiques britanniques au Moyen-Orient. C'est Winston Churchill, qui est le secrétaire colonial à l'époque, qui va gérer un peu les discussions. Et c'est comme ça qu'on va déterminer que ce qui devient le Liban, la Syrie, va être sous le contrôle français, la Palestine sous contrôle britannique, qu'on va créer un nouveau royaume ou un nouvel État supporté par les Britanniques, qui va être l'Irak avec Faisal comme roi. Et c'est sûr que c'est un peu ce qui explique pourquoi, à un moment donné, Theodore Lawrence se rend d'Arabie quand il va comprendre tout ça. Lui, bon, il retourne en Angleterre. Là. Il fait comme « Bon, ça m'intéresse pas tout ça. » Il est très déçu, en fait, du résultat parce qu'il a très, très bien compris les tensions qui existaient entre certains clans et ces gens-là qui ont tellement contribué, en fait, à la victoire occidentale contre l'Empire ottoman. Finalement, ces gens-là n'ont pas du tout été entendus. On n'a pas pris en considération, en fait, leurs demandes. Et ça va beaucoup, beaucoup le décevoir. Ça va décevoir aussi Gertrude Bell, qui meurt après avoir fondé le musée de Bagdad d'un un excès de barbiturique. Est-ce qu'il y avait dans ce geste aussi une forme de déception profonde sur comment son travail ou ses mots même ont pu être repris pour donner ce résultat-là? Au final, en fait, c'est sûr que tous les deux n'ont pas apprécié comment la situation s'est réglée. Et là, on vient de mettre la table pour des problèmes quand même assez majeurs. Et ça, ce sera un autre volet parce qu'on pourrait faire des épisodes très, très longs sur le sujet, mais en espérant que ce petit épisode thématique vous aide quand même à comprendre là, l'importance, en fait, des révoltes arabes pour la création, on va dire, de ce qui est aujourd'hui ce qu'on appelle le Moyen-Orient. Et pour en savoir plus sur le sujet de ce cours, je vous suggère comme lecture « La formation de l'Orient arabe contemporain, 1916-1939, au miroir de la revue des Deux Mondes » par Noureddine Seoudi, c'est paru chez l'Harmattan, et un de mes coups de cœur personnels, je dois l'avouer, « Lawrence in Arabia » par Scott Anderson, et ça c'est paru chez Doubleday ou, pour certaines éditions, Random House. Si vous souhaitez suivre mes actualités en histoire et en archéologie sur les réseaux sociaux, je vous rappelle toujours que j'ai deux comptes Facebook. Donc, j'ai Evelyne Ferron, historienne, où je publie un peu ce qui me tente. Des fois, je fais des éphémérides, etc. Et mon compte Historiophile, qui est un compte d'actualité quotidienne. Actualité que je fais aussi là, sur mon compte Blue Sky. Donc, si vous voulez vraiment quelque chose de journalier avec les liens directs parce que, bon, au Canada, avec le blocage Meta, je dois briser les liens pour vous permettre d'y avoir accès parce que sinon, bon, c'est masqué. Mais sur Blue Sky, ben là, je peux mettre les liens directement et vous pouvez cliquer dessus. Donc, je vous invite à suivre ce compte si c'est ce que vous aimez. Et si vous appréciez ces cours d'histoire, n'hésitez pas à me laisser des petites étoiles sur les plateformes, à partager les épisodes pour que le balado commence à être découvert. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain cours, un cours régulier cette fois-ci parce qu'on retourne en Égypte.